supposé, ce serait ça. Comment vois-tu ton œuvre entre 68 et 82? Disons, ce qu'elle était au départ en 68, qu'elle est devenue, mettons, en 83, par exemple.
Bon. Dans mon cas, moi, ça se pose pas en 68 à 82, ça se pose en 63 à 82. Mm-hmm. Parce que 68, c'est une date plutôt arbitraire pour moi. Mm-hmm. 63, ça a été pour moi le début marquant là, de la production de l'œuvre. Ce que je considère bon ou mauvais escient, ce que je considère comme étant ma première contribution personnelle, valable, tu sais, qui est redevable, donc, pas d'autre chose que moi, là, mon statement en tant qu'artiste, bon, en tant que créateur, qui était les gravures à Taverne, les gravures en hommage à Taverne. Bon. Ça, pour moi, c'est mon point de départ. Quoique, avant ça, dans les gravures, j'ai gagné des prix, puis des cibles d'affaires, des honneurs, puisque tu voudras, là. Je considère que ça, c'était pas une œuvre qui m'appartenait à moi. C'est une œuvre qui appartenait, si tu veux, à toutes sortes de morceaux qui venaient un peu partout. Tandis que ça, l'idée de Verne, pour moi, je considère que ça m'appartient à moi. C'est mon statement personnel qui ne peut pas arriver d'un nom. Ensuite, ça a développé dans les tableaux de 75-76. Qui eux-mêmes étaient, à ce moment-là, quand on est en plein milieu de l'élaboration de l'œuvre, on ne se rend pas trop compte de son implication future. Mais que par la suite, c'est avéré qu'il était, que c'est celui dans les tableaux vivants. Ils ont commencé en 67, en 68 et en 69. C'est pour ça que 68, pour moi, c'est une date qui marche.
Non, c'est toi, c'est surtout 69, parce que 69, c'est la fin des Gris, c'est ça? La grosse production
ben,
de
gris. Non, la fin des gris, c'était
la l'exposition. Donc, je veux dire la grande exposition de gris.
La grande exposition de gris, ça, c'était en 69.
C'est ça.
Et lui, après ça, au lieu des lignes, il y a eu des bandes de gris sur gris aussi. Qui, à ce moment-là, pour moi, ne faisait pas partie du tout de la même chose, mais qu'avec le temps, ont été raccolés avec les lignes en gris.
C'est toi qui les as raccolés ou bien les autres?
Non,
toi, tu les mets toujours autonomes.
Moi, je les mets toujours autonomes. Parce que les bandes grises, pour moi, se rattache beaucoup plus à la production d'après, des tableaux bleu foncé avec gris foncé, puis ensuite les bandes colorées, et ainsi de suite. Parce que tout ça, on voit que ça vient des tableaux à bandes. Ou entre 69, les premiers 69, mais ça, ils ne sont pas montés, ceux-là. À bandes, il y avait aussi l'élément graphique de la ligne. La ligne, à ce moment-là, partait d'un bout à l'autre du tableau, n'était pas sélectionné comme il était dans les tableaux de 77, 78, 79. Mais il y avait la bande qui était introduite en tant qu'élément, puis il y avait aussi l'élément graphique qui était retenu en tant qu'une ligne qui faisait une séparation du tableau, puis ça passait de 4 à 3, à 2, à 1 ligne, jusqu'à temps que la ligne ait été éliminée. Puis les tableaux sont devenus entièrement colorés, puis c'était des plages de couleurs dans ces bandes-là. Donc il y a eu une chute qui part de ça. Mais pour moi, c'est...
Comment ferais-tu la relation avec les tableaux gris et ça? Tu n'en as plus un, il n'y en a pas.
Entre les tableaux à ligne?
Oui. Comment tu sais que tu as passé, disons, les tableaux gris et les tableaux à ligne?
Bon, OK, mais ça, la relation qui s'est passée, c'était... Le moment qui s'est passé là-dessus, c'est que... En 69, après avoir accroché la même exposition à trois endroits différents, qui étaient Vancouver, Edmonton et puis Londres, je m'étais rendu compte, dès la première fois qu'il était accroché à Vancouver, qu'il y aurait un changement majeur qui était imposé. Bon, parce que j'avais travaillé de 67, donc de 3 années, en fait, presque, à l'élaboration de ces tableaux-là, purement sur une spéculation, parce que je n'avais jamais eu la chance de les voir ensemble. Puis pour moi, il y avait des données qui ces tableaux-là qui étaient beaucoup plus que des tableaux individuels. C'était un tout cohérent qui devait être perçu comme un tout cohérent dans le cadre de l'exposition. Pas seulement des objets autonomes, mais que c'était un tout.
Dirais-tu un environnement ou un tout?
Un environnement, si tu veux, mais un tout. Mais j'aime pas c'est le mot environnement parce que l'utilisation du mot qui a été faite par la suite. Environnement, oui, mais c'était un tout autonome. Qui était le résultat. Le résultat devait être plus que la somme de ses parties, si tu veux.
Okay.
Donc, chacun des tableaux était une partie. À Vancouver, c'était le test ultime, si tu veux, de si 3 années de spéculation, de production, ça, c'était pour devenir des tableaux individuels montés sur les murs, pour être perçus individuellement, ou c'était pour être une exposition pour être perçue en tant que tout, globalement, que, et que si on le voulait, la possibilité de percevoir chacun des tableaux individuellement pouvait se poser aussi. Mm-hmm. Mais il y avait deux attitudes que tu étais conscient de prendre l'une ou l'autre attitude quand tu le voyais. C'était pas, le spectateur était conscient des deux possibilités.
Mm-hmm.
Non. Et ça s'était donné qu'à Vancouver, ça marchait. C'était ça. Le test marchait là-dessus. Mais quand tu marchais là-dessus, où tu pouvais être à l'intérieur d'une salle, d'une des trois salles qu'il y avait, à l'intérieur d'une salle, puis tu ne voyais aucun tableau, mais tu percevais la somme de ces tableaux-là physiquement.
Mm-hmm.
Puis aussi, où par la non-couleur, il y avait une expérience de couleur qui se passait. Parce que chacun des tableaux sortait du mur, puis arrivait vers le centre, puis ils se rejoignaient vers le centre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, wow, ça avait des implications dans l'élaboration de mon œuvre future. Il faudrait que je tienne compte, mais je ne savais pas du tout quelle forme c'était pour prendre à ce moment-là.
OK. Ça. On a dit les guéris à Vancouver, tu voyais que c'était fini quelque chose.
Ah oui, c'était fini, c'était évolu cette affaire-là. C'était fini, c'était évident. Puis je me suis rendu compte aussi, à l'accrocher à Edmonton, puis ensuite à Londres, que j'aurais pu continuer à la bain du monde, là.
Mm-hmm.
À me répéter moi-même, puis maintenant que la recette était bien développée, j'ai répété la recette pendant des années et des années, puis à ce moment-là, je passerais inévitablement, à un moment donné, il faut que ça passe. Hein? Que ça passerait quelque part en répétant la même recette. Mais vu, moi, je conçois que ce n'est pas le rôle du créateur de se répéter, parce qu'il n'y a plus de création quand tu as recette. La création commence au moment où il n'y a plus de réponse à un problème donné. T'es obligé d'en faire.
On dit devient l'artisan de son œuvre au lieu d'être l'artiste de son œuvre.
Exactement. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quand je suis revenu de Londres, j'ai essayé de faire des tableaux pour tout le temps essayer de trouver une nouvelle façon, une nouvelle approche, pour essayer de percer au travers, pour le continuer. Ça ne donnait rien. C'est à ce moment-là que j'ai fait R69, le fameux tableau rouge, qui était fait spécifiquement dans le but de briser tout mon système, briser toute mon approche, briser toute ma conception, briser toute l'affaire de fin, et d'essayer de ramasser les morceaux par la suite pour voir qu'est-ce que j'étais pour refaire, d'où j'étais pour repartir. Bon. Quand j'ai pété ça, c'était en 69, fin du mois de novembre, je pense, 69.
Oui, c'était les grands formats centenaires.
C'était
début janvier. C'était
en 70.
Ouais, début janvier 70.
Je pense que ce tableau-là n'aurait pas eu sa signification aussi profonde pour moi si je ne l'avais pas montré. Je me suis fait critiquer pour l'avoir montré parce que c'était tellement violemment opposé à ce que j'avais montré avant. Le geste était considéré comme un geste gratuit. C'était peut-être gratuit dans le public, mais ce n'était pas gratuit pour moi.
C'était pour dire à tout le monde, les gris, c'est fini.
Les gris, c'est fini. C'est fait. T'sais? Mais ça a été considéré par bien du monde, dont toi, je pense, à ce moment-là. Tu n'étais pas trop certain. Tu n'étais pas trop certain pourquoi. Mais qu'il y en a qui considèrent que c'était un geste gratuit, que je riais du monde, quelque affaire de même, mais sûr, les attentions que les gens nous prêtent et puis celles qu'on a, c'est bien rare que ça coïncide ou ça concorde. En tout cas, pour moi, c'est important de le montrer parce que le geste prenait une signification beaucoup plus profonde parce qu'elle a été publique. Si ça avait été seulement privé, ça aurait été peut-être différent. Les grilles avaient été publiques, donc il fallait que lui soit public. C'est vraiment se mettre sur la planche. Hein. Alors, quand j'ai recommencé à faire des tableaux, j'ai tâtonné toutes sortes d'affaires, donc tout a été jeté, ça joue dedans. Et ça a pris presque un an avant que ça prenne et que ça a développé dans des lignes, on l'a dans le catalogue, des lignes qui partent du centre, du bout du tableau, vers la main du tableau, puis ça vient quelque part en surface, puis qui arrête là. Donc la dynamique rythmique, la surface change. Et de ça, le pas s'est fait que la ligne parte d'un bout et soit continue jusqu'à l'autre bout du tableau. L'élément graphique, un tableau de 70 qui s'appelle Champ Vert, qui, par justement le tracé de ces lignes, fait 4 bandes. Et c'est de ces bandes-là, qui au départ, j'étais revenu avec le gris parce que la couleur, c'était beaucoup trop violent à ce moment-là pour pouvoir l'assumer dans un sens. Donc j'ai passé, plutôt que de la couleur, j'ai passé dans la structure d'un tableau. pour le faire évoluer.
Tu étais quasiment revenu presque à Verbeur à ce moment-là.
Exactement. Exactement. C'était presque un retour au départ de Verbeur pour m'en faire. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte des implications de la vente. Que depuis Verbeur, j'avais travaillé avec des éléments graphiques sur telle sorte, sa surface. À ce moment-là, que j'avais négligé la plage. Ces choses-là, dans le but d'un champ continu. Puis que peut-être que je pouvais continuer mes préoccupations, qui étaient celles d'une rythmique, puis de structurel, tout ça, le poursuivre par des plages plutôt que par des éléments graphiques. C'est de là que, tranquillement, pas vite, là, justement ces tensions qui existaient dans les tableaux gris, qui existaient dans les tableaux colorés d'avant, qui existaient dans les Verbeur aussi, qui étaient des diagonales. Je reviens à ma fameuse diagonale, qui était à partir des Verbeur, puis qui s'était maintenue à travers tout ça, puis intuitivement, en fait, parce que je n'étais pas tellement conscient, que ça se poursuivait dans le rythmique dans les bandes. Puis ça s'est poursuivi dans les bandes, effectivement, puis sur le plan qui se disait de haut en bas, de gauche à droite, et puis en biais. Et que c'était un élément qui, pour moi, me permettait de relancer le problème, parce que je considère que le créateur, il crée pour son propre intérêt, en fait. Ça a perdu la matière ou a perdu de son intérêt comme élément situé de travail, puis tu laisses de côté, comme la gravure en avait déjà perdu, tu laisses de côté, c'est fini. À ce moment-là, ça me donnait des problèmes à travailler qui m'intéressaient suffisamment pour continuer. Là, j'ai continué, puis j'ai réintroduit la couleur. Dans le même sens que j'avais déjà réintroduit la couleur, en 1965, avec mes premiers tableaux colorés. J'avais fait, je suis plein d'une dynamisme de couleur, réintroduire les bandes plutôt que des lignes, ainsi de suite, les mêmes relations. Donc, c'était de reprendre le même processus que j'avais passé de 1965 pour arriver en 1969.
Mm-hmm.
Donc, je prenais le même processus avec des bandes plutôt que des éléments graphiques. En 72, j'ai commencé avec des tableaux bleus, foncés, et qui est parti dans les tableaux avec bandes par la suite, tout ça, jusqu'à un développement qui était Jericho, en 79, qui était une autre direction. Mais le point important, c'était celui qui avait posé la diagonale du brun du gris.
Du brun du gris.
Qui était important à ce moment-là, parce qu'il ouvrait à partir de ça tout un grand champ. Là, que, bon. Ce grand champ-là, quand j'ai poursuivi, m'a mené à Jericho. Cette série-là. Là, je savais que c'était une série, une attitude temporaire. Parce qu'il y avait.
Qu'est-ce que tu appelles le KISS qui était l'attitude temporaire? La série qui appelle la
série
Jericho.
Des Jericho.
Des Jericho, même. Les Jericho, c'est une attitude temporaire.
Oui. Okay. Parce que c'était une voie qui s'offrait à déboucher hein, de ce qui était développé jusque-là. Qui partait aussi des angles de Brun-Gris. C'était un débouché parmi d'autres.
Mm-hmm.
Hein, qui se ferait, puis qui m'intéressait de poursuivre pour voir jusqu'où hein, pour aller mener. Il se ferme complètement avec les trois gravures de 1981 qui s'appellent Phare, c'est le point de sèche.
Il t'a fait chez Graff. Là.
Il t'a fait chez Graff. Ben, il y a des inversions qui étaient le point des eaux fortes,
mm-hmm.
hein, de 1980, et puis la série des Jericho, puis les tableaux qui faisaient partie de l'exposition de chez Waddington en même temps. Que celle de l'Art Gallery of Ontario, qui malheureusement, pour ces tableaux-là, ont été beaucoup critiqués parce que les gens n'ont pas pris le temps de les voir, parce qu'il y avait tellement de choses au musée de Toronto, que quand ils arrivaient à la galerie, à ce moment-là, ils s'imaginaient que c'était une simple répétition de ce qui était dans les Jericho là-bas, mais loin de là, c'était justement de pousser le problème des Jericho jusqu'à son ultime qui me permettait. Il y avait même un tableau en noir et blanc qui était là, qui prévoyait la continuité dans les inversions, dans les phases. Phase, pour moi, c'est la fin du plus haut clou.
Mm-hmm. Puis là, t'es où?
Ah. Là, je suis reparti après, ça a pris un certain temps, pour réajouter le tir. Je suis reparti de la problématique qui se posait avec, encore une fois, deux bruns de gris. Là, je repose, je restitue le problème sous un autre angle. Celui-là, je ne le définirai pas. Si je le définis, je ne le ferai pas.
OK, là, c'est des tableaux qui sont en,
train de se faire.
Okay.
Depuis 1980 ou 81. Depuis 80 ou 81. J'étais malade, là, pas produit pendant un certain temps. accepté les gravures, puis ça fait de même. Donc, il n'y avait pas d'énergie pour la production. De toute façon, moi, ça m'est arrivé très souvent durant cette période-là, passer plusieurs mois sans de l'œuvre. Pour moi, c'est essentiel, quand le besoin se manifeste, de le faire, parce qu'il y a une remise en question de tout le processus à ce moment-là qui se fait, puis qui doit se faire. C'est naturel pour moi, puis c'est simple pour moi de faire ça. Pour d'autres, c'est très malsain, pour moi, c'est très simple.
D'arrêter carrément,
sans produire quoi que ce soit, puis ça dure le temps que ça dure. C'est ce que j'appelle, moi, la différence entre les périodes évolutives et les périodes involutives. Puis pour moi, les périodes involutives sont aussi importantes, sinon plus importantes encore, que les périodes évolutives. Ça, les périodes évolutives, c'est les périodes de la fabrication de tableaux, les périodes évolutives, c'est l'incubation de ce qui va se passer, puis la compréhension de ce qui s'est passé par rapport à ce qui va se passer. Ça, dans la société, c'est extrêmement mal perçu qu'un peintre arrête ou un créateur arrête de créer pendant 6 mois. C'est parce que les gens qui perçoivent mal connaissent très mal les processus de création, bien souvent. Ou encore, ils sont drôlement pognés sur le côté d'activité, ce que j'appelle professionnelle, mercantile ou quoi que ce soit, pour se permettre justement des pauses qui sont extrêmement importantes.
Parce que quand tu arrêtes, est-ce que c'est des. Y a-t-il une remise en question des tableaux qui étaient faits avant?
Une compréhension des tableaux. Une recompréhension.
Une recompréhension, c'est ça, je veux savoir, c'est ça.
C'est pas une remise en question.
C'est ça, je te pose la question.
Une recompréhension de ma façon d'avoir abordé la problématique, puis jusqu'où je me suis rendu à l'intérieur de ça, et puis de resituer, si je regarde à quel point le problème a été situé, à quel point il a été attaqué, il a été résolu, puis jusqu'où je me suis rendu dedans, ce qui me permet de repartir après ça, d'après ce qui a été fait. C'est toujours une espèce d'introspection par rapport à l'œuvre antécédente, qui me permet d'accéder à l'œuvre présente ou à l'œuvre future.
Okay.
Parce que pour moi, il y a un processus évolutif, il y a toujours eu un processus évolutif, qui a une raison d'être, et puis qui a sa propre logique, puis qui doit exister dans sa propre logique. Puis ça n'existe pas pour moi, ça n'a pas aucune valeur. Il y a bien des artistes qui n'ont pas, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Pour moi, c'est extrêmement important parce que ça fait partie vraiment des raisons profondes pour lesquelles je fais. C'est justement d'arriver à une espèce de processus intérieur d'évolution, processus évolutif qui est extrêmement important. Autrement, je serais aussi heureux de faire de la menuiserie, faire des tables, des armoires, des meubles, n'importe quoi, que de faire des tableaux. Pourquoi faire le tableau à ce moment-là? C'est seulement que de créer un objet. C'est ce qui rend la création du tableau très, très différente pour moi, de l'œuvre d'art très différente pour moi. Qui n'a rien à voir à faire avec le contexte social, culturel, le contexte de la vogue, de la dernière chose qu'il faut se faire, et ainsi de suite. Là. Ce que les Italiens et les Allemands font en ce moment, puis se branchent.
Donc on dit que l'objet des tableaux, c'est les tableaux. L'objet,
c'est pas le tableau, non. Le tableau, c'est seulement le témoin d'une activité, d'un moment très précis du processus évolutif.
C'est le processus lui-même qui est important. Les tableaux sont
des supports visuels. C'est le témoin de ça. Okay. Puis c'est lui qui permet ensuite de retracer ce processus-là par son antécédent, puis par sa suite. Parce qu'un tableau se situe toujours par rapport à celui qui a été fait avant lui et celui qui a été fait après. Il ne se situe pas par lui-même, à mon avis.
Un tableau n'est pas un objet.
N'existe pas par lui-même.
Okay.
Il existe toujours en relation de ce qui a été fait avant lui et ce qui a été fait après lui. Par lui-même, tu ne vois qu'une fraction de la vérité.
Si on dit que l'homme descend du singe, un processus évolutif, de quoi descendent les tableaux? De quoi la pierre de départ? Le point de départ?
De l'homme. De l'homme. Ça descend de l'autre. De l'homme qui cherche, de l'homme qui peut essayer de se définir, de l'homme qui peut essayer de se comprendre, de l'homme qui peut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, c'est ça. C'est pas l'exercice intellectuel de la définition de problèmes formels, si tu veux, en tant qu'exercice intellectuel, moi, ça ne me touche pas vraiment. Ça ne me touche pas du tout. Ça m'intéresse en autant ce qui fasse partie d'une problématique, d'une approche personnelle d'une problématique. De la sortie, puis c'est là que je rejoins, si tu veux, les peintres américains, dont l'école de pensée, c'était John Dewey, que substance et forme sont indivisibles. Okay? Malheureusement, ici, dans le contexte québécois, il y a cette attitude cartésienne, si tu veux, de séparer substance et forme, et de regarder seulement la forme, d'analyser la forme en tant que telle. Puis malheureusement, c'est que ça crée bien des travaux, bien des œuvres ici, qui sont commises dans le fond, vides de fond, parce que il y a seulement la forme que t'es pensée. Puis pour moi, l'essentiel, c'est la substance. Parce que la forme, c'est le support de cette substance-là. Par elle-même, pour moi, c'est plate, autant qu'une chaise est plate. Mm-hmm. Tu mets ton cul dessus, puis ça finit là. Mais c'est de là que ça vient. Pour moi, c'est une activité, puis c'est là-dedans que je demeure un artiste de conception extrêmement classique, si tu veux.
Mm-hmm.
Ou ma définition par rapport à une société, puis par rapport à un système politique, par rapport à le faire là, ça se pose même pas. Ça se pose pas plus que... Si j'étais écrivain, ça serait autre chose.
Mm-hmm.
Parce qu'à ce moment-là, le sujet, et puis l'objet, le discours, puis l'objet sont tellement intimement liés que tu peux pas te sortir d'un contexte que tu dis.
Parce que le tableau,
lui, justement, contrairement à tous les autres langages,
mm-hmm.
il y a un langage tellement intrinsèque que la relation se fait, à mon avis, pour moi, là, je ne suppose même pas. Quoique, j'accepte que certains artistes se servent du côté du discours, le discursive painting qu'ils appellent, s'en servent pour des témoignages sur autre que ça. Fait, ça, c'est leur mode de le faire, moi.
Mais c'est pas ta démarche, quoi.
S'ils veulent le faire, qu'ils le font, qu'ils le fassent. Mais moi, ça me préoccupe même pas en tant que démarche. Mm-hmm. Même pas. Donc, je deviens parasocial, je deviens aussi vogue en ce moment, parce que d'abord, c'est justement au social.
Mm-hmm.
Moi, je ne me suis pas du tout dans cette affaire-là, je n'ai pas l'intention de changer mon orientation pour faire plaisir avec quelques girouettes.
Mm-hmm.
Ça me reste.
Girouette est bien.
Donc, c'est vrai, parce qu'ils changent de plume d'un bord à l'autre. Du moment que le vent vient d'abord, ils tournent avec le vent, puis ils tombent sur leur tête. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Mm-hmm.
Je passe au travers même des ouragans, je m'en passe d'autres. Là, c'est qu'on est rendu là. Remise en question, on a passé celle-là aussi.
Bon, oui.
On a passé toute une gang ensemble.
Ah, t'en as passé pas mal.
Là, c'est justifié par la même aussi.
Ben, alors, on l'a fait.
L'origine, ça aussi.
Mm-hmm.
Ben, on en a parlé, mais bon.
Mm-hmm.
Puis geste réateur aussi.
Mm-hmm. Ouais, là, t'es donc, c'est-à-dire que sur tout l'ensemble de le... La description de ton œuvre, c'est ça, là, tu l'as posé ton œuvre. Il y a peut-être une chose, par exemple, que tu as juste suggéré.
Il y a juste une chose
que tu as peut-être suggéré rapidement, puis tu n'es pas revenu, qui est important, la rythmique.
Oui. Ouais, mais ça, on a parlé bien gros. Ça. Ça reste encore. Le rythme, pour moi, c'est un élément fondamental de la nature, dans le sens très large du mot.
Mm-hmm.
De ce qui me touche, de ce qui est cyclique technique, en fait. Puis ça date de longtemps, d'une étude que j'avais faite assez approfondie sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Puis ça aussi, ça part de John Dewey, en fait. Les conséquences d'une rythmique. Si tu regardes, par exemple, les Africains avec la danse, puis ce qui induit un élément de tranche, hein, c'est exactement ça, que le tambour va commencer à un certain rythme, puis à un moment donné, c'est le cœur qui s'ajuste au rythme du tambour. Et une fois que le cœur s'est ajusté, parce qu'il bat au même rythme que le tambour, même séquence pour tambour, même séquence, que l'élément de transe commence à être induit. Induit. C'est dès ce moment-là, entends-tu, tu perds complètement conscience de ce qui se passe. Ce phénomène-là m'intéressait énormément. Donc, je l'ai élaboré, puis je me suis rendu compte au travers du tableau que ça m'intéressait d'essayer de travailler cet élément de rythmique-là. Les tableaux de 60, ben, avec les Weberne, en fait, mais j'avais déjà commencé avant ça. J'avais déjà commencé avec mes gravures de 61. Des affaires comme Asagao, Naka, puis tout ça.
Celle qui était dans le catalogue de Toronto, là.
Ouais. Parce que la relation des œuvres, des formes, excuse, dans la surface, posait la notion de lecture multiple. Et pour moi, la multiplicité de cette lecture-là devenait, justement, donnait une durée à l'œuvre, puis dans la durée, il y avait une rythmique qui se posait. Je conçois qu'une œuvre visuelle, pour moi, a une durée au même titre qu'une œuvre poétique ou qu'une œuvre musicale. Cette durée-là, c'est le temps que l'œil peut prendre au moment où il regarde cette surface, où il scanne.
Un panorama, en tout cas, c'est tracé.
C'est l'approbation de cette surface-là. Où il poursuit, si tu veux, pas le rythme, mais le mouvement, mais c'est un mouvement inductif, si tu veux, tu sais, inductive movement. Mon anglais ressort.
C'est ce que tu dis?
Inductive movement.
A lot of movement?
Inductive.
Inductive movement, OK.
C'est un mouvement qui est induit, mais qui a trait purement et simplement au système de voix. Autant que c'est l'oreille qui entend, qui procure les sensations qui ensuite sont interprétées par le cerveau.
Scan, c'est balayage.
Le balayage.
Le balayage de l'œil sur le cerveau.
Oui, mais j'aime pas le mot balayage. C'est la femme de ménage.
Scan, c'est ça.
Ouais, le balayage. Autant l'oreille, tu vois, interprète le son par sa physicalité de l'oreille, mais ensuite le retransmet au cerveau qui, lui, le décode pour en faire autre chose. Autant pour moi, le tableau, sur le plan abstrait, je parle, que ce soit un tableau figuratif ou non, sur le plan abstrait, l'œil perçoit des pulsations qui ensuite sont envoyées au cerveau, puis le cerveau décrit. Mais pour moi, je m'en tiens toujours, non pas à l'information littéraire, ou l'information du discursif, du tableau, mais son information qui noterait qu'à l'œil lui-même, comme la musique noterait qu'à l'oreille. Tu vois?
Par l'oreille, autrement dit, tu rejoins tout le corps.
Par l'oreille, tu rejoins tout le corps. Par l'œil, tu rejoins tout
le corps.
Okay? C'est aussi global et total que ça. Ce n'est plus une question là, de système qui est énoncé verbalement, qui devient le décollage de l'œuvre. Le décollage, ça passe au niveau du cerveau, mais par l'entremise purement et simplement du sens qui s'appelle la vue.
On dit sans faire appel à des schèmes extérieurs, à une représentation, sans faire appel.
Je travaille directement sur le sens qui, lui, est décodé par le cerveau. Okay? Ensuite, après être décodé, bon, là, tu peux arriver à d'autres choses, mais la perception est directement sur le sens du visuel. Comme la musique sur le sens de l'oreille.
Dans ce sens-là, et continuons de même, quand tu fais, par exemple, un tableau que tu l'intitules « Hommage à Géricault », est-ce que tu n'introduis pas d'une façon un élément complètement extérieur à l'œuvre, Géricault, c'est Newman.
Non, c'est pas un hommage, première des choses à Géricault.
Ah non, c'est comment ça s'appelle le tien de ces... Hein?
C'était
Une allusion...
Une allusion.
OK. Mais déjà, Géricault. Le fait de l'allusion... Géricault, une allusion par notre Newman, c'est ça.
C'est ça. Bon, ce que je faisais, c'est que l'allusion, ça veut dire que dans ma façon d'avoir abordé visuellement de ces tableaux-là, j'avais reconnu à un moment donné une certaine affinité lointaine avec la façon qu'un autre peintre avait touché un problème, non pas identique, mais apparenté, si tu veux. Puis j'ai reconnu qu'il avait touché ce problème-là à sa façon. Moi, je le touche d'une autre façon, qui est complètement à l'opposé de la sienne. C'est presque un renversement complet de la façon dont Newman a touché son tableau, son Géricault. Et c'était une préoccupation que, quand je travaillais, je me disais, coudonc, il y a quelqu'un qui a travaillé cette affaire-là, mais dans un autre sens, complètement différent. Puis j'ai essayé d'identifier ça, qui avait fait, Puis quand j'ai identifié, ben là, j'ai compris que c'était lui-même avec son, son Jéricho et ainsi de suite. Puis c'était une référence pour, purement pour moi, mm-hmm. pas pour les autres, parce qu'il faut donner des tableaux, des titres, malheureusement, des tableaux. Malgré que j'ai pêché, justement, déjà, là-dessus, quand je donnais des titres descriptifs, comme par exemple des ragots, des ci, des ça. Bon, les gens s'imaginaient que j'essayais de faire une ragot, il y avait qui s'appelait Fugue Jaune, mais que j'essayais de faire une fugue. J'ai déjà fait démolir en, en Angleterre à cause de ça. Un critique qui dit que ma gravure qui s'appelait Fugue Jaune ne comportait pas du tout la séquence d'événements, si tu veux, de mathématiques de l'art de la fugue de Bach. Je dis, Chris, quand même, bon. Et là, j'ai compris que c'était peut-être donner une béquille qu'il ne fallait pas.
C'est ça, parce que là, c'est ça que je te disais, c'est ça que je faisais de parler de Newman. C'était le fait, justement, quand tu parles du tableau qui est lui-même, si immédiatement tu fais allusion à Barrett Newman, là, tu fais, appel à tous les chambres culturelles, ou les connaissances de n'importe quel individu qui regarde. Parce que Newman n'est pas le dernier connu. T'sais.
Non, j'aurais peut-être pas dû le faire.
Mais remarque que je te comprends, je peux t'expliquer, je peux te justifier en disant, ben, c'est une chose qui est évidente, pourquoi pas le dire?
C'était pour moi. Bon, c'était, en fait, c'était pour moi, mais plus qu'autre.
Mm-hmm. Et quand tu disais que c'était tout à fait différent de Newman...
Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai bien mal pris, parce que c'était une série de tableaux que je n'avais pas connu comment nommer. Parce que moi, des titres, j'ai plein bien nommé ça. Il y en a qui reviennent tout seuls, qui ont beaucoup plus de titres, en fait, derrière eux, ou en avant deux qui ont des tableaux qui sont faits. Mm-hmm. Ça, tu vois, c'est un peu le contraire. Ma mort, c'est de donner des titres, ça a toujours été ça.
Grand tactique que tu vis.
Bon, là, tu commences par A, puis t'en vas jusqu'à Z.
Dingue à partir avec les violettes africaines, qui fait. Il t'en a 30 000 titres possibles.
Ah, ben non, avec les orchidées.
Les orchidées, 30 000 titres possibles.
Ouais, les espèces, il y a bien des espèces. Il y a des variétés aussi. Ah oui, j'ai dit samedi et dimanche. En tout cas. Mais. Ça, ça faisait depuis en fait, la série des ragots, je n'avais pas donné de titre identifiable, de quelque façon que ce soit. Mm-hmm. Les tableaux gris, c'est un code pour le tableau. Le code est son code de couleur, puis sa date, et puis l'année. Mm-hmm. Ça, c'est le titre de l'œuvre de chacun des tableaux gris. Après ça, ben, c'était purement l'énumération d'un fait. Bleu, rouge et gris.
Deux bleus, deux gris.
Deux bruns, deux gris. En partie, c'était peut-être à cause de ça aussi, d'être un peu trop près de Kelly, parce que justement, je nommais les couleurs, puis lui nommait ses couleurs. C'est bon. Mais dans mes tableaux, le Nasgard, il touche assez près là-dessus, mais une différence fondamentale entre Kelly et moi, c'est de nommer Kelly. Quand il met un noir, il nomme le noir. Moi, quand je mets un noir, je ne nomme pas le noir en tant que noir. Je nomme une fonction, je lui donne, je lui attribue quelque chose autre. Parce que le noir peut se comporter d'une façon complètement, de mille et une façons différentes. Moi, c'est le comportement du noir qui m'intéresse. C'est pas de nommer cette couleur-là, mm-hmm. en tant que couleur. Donc, c'est sa qualité, sa composante, son contexte, tout devient extrêmement important par rapport à la fonction que le noir va avoir. Parce que c'est sa fonction qui est ultimement importante, plus que le fait que d'être noir. C'est que d'être noir qui est important.
C'est un peu comme en musique, quoi, le fa puis le sol, ben, c'est-à-dire, on dit fa, sol, si, puis etc., puis ça veut juste dire ça.
Oui.
Mais l'ensemble, on ne dira pas de Beethoven qui a fait
des différences très, très profondes entre la façon de Carrie d'aborder la peinture et puis la mienne. Complètement aux antipodes. Même si des fois ça peut se rejoindre. Écoute, tu as des peintres hollandais qui ont fait des naturemortes avec trois pommes, et puis tu as Cézanne qui l'a fait aussi, puis tu as Renoir qui l'a fait aussi. Pourtant, c'est pas pantoute les mêmes affaires. Pourtant, ça reste trois pommes. Puis si les gens commencent à dire qu'il y a des affinités entre les peintres hollandais puis Cézanne ou Matisse ou maintenant Renoir, parce que c'est des pommes qui sont complètement dans les pommes. La même chose en nous qui pourrait pas être un patate. La même chose en fait qui existe en Cali.
Mais tantôt, ce que tu disais, que tu étais justement différent de Newman, c'était que ta démarche, comment tu vois la démarche de Newman, ce sens-là?
face au Jéricho lui-même, parce que ça, cette affaire-là, l'illusion, c'est seulement face à Jéricho, qui est un tableau du monument. C'est pas face à l'œuvre du monument.
OK, donc face au Jéricho.
C'est face à un tableau qui s'appelle Jéricho. Ça, c'est pour ça que, spécifiquement, il y a une allusion. Jéricho est une allusion à Barnett Newman, ce que Newman a fait avec. Ce que Newman a fait avec son Jéricho, c'est un shaped canvas, sous forme de triangle, qui a divisé en deux, légèrement symétrique, dans le zip central, qui part du centre en bas, puis qui s'en est juste à côté de l'apex du triangle en haut. Mais par exemple, le triangle isocèle, lui, il est parfaitement symétrique. Tu vois? Bon. Moi, l'inversion s'est posée. C'est que mes triangles, première des choses, sont tronqués. C'est pas des triangles isocèles. Pas plus que les côtés des triangles sont isocèles parce qu'ils sont complètement irréguliers. Et puis la ligne centrale est très droite et pas croche. Et puis en plus, c'est que c'est pas des shaped canvas. Parce que le triangle est posé sur un tableau conventionnel.
C'est
un rectangle conventionnel. Ou encore sur deux carrés conventionnels, dont le diptyque, quand tu mets un côté de l'autre, la distance entre les deux crée la bande centrale. Ça, qui n'est pas non plus un shape canvas. Donc, c'est des façons d'aborder le problème par l'opposé, si tu veux. C'est pas le Jéricho de Newman qui m'a provoqué à faire cette série-là. La série était bel et bien commencée longtemps avant que je mette le doigt sur quelqu'un qui a travaillé le problème, comme je disais tantôt, d'une façon complètement différente de la mienne, d'une approche complètement différente. Puis quand je l'ai vu, cette affaire-là, j'ai remarqué tout de suite les différences. Puis parce que si j'avais remarqué des affinités trop proches, j'aurais jamais osé le piéger plutôt, et puis dire que c'est une allusion à Newman. J'aurais jamais osé. Si j'ai osé le faire, c'est parce que justement, c'était tellement différent de l'attitude de Newman face à son Jéricho que je pouvais me permettre de le faire sans que qui que ce soit puisse en faire un rapprochement. Il y en a qui ont essayé d'en faire quand même. Eux autres, ils étaient encore des pommes. Des pommes différentes que celles de tantôt. Pour les mêmes raisons, par exemple.
Mais ça, comme tu dis, Jéricho, c'est fini. Tu en as parlé. Qu'est-ce que...
Ben, ça a été une bifurcation que j'ai vue, qui m'a intéressé, qui était une attitude qui aurait pu me mener vers un shape canvas. J'ai passé très proche de faire, parce que j'ai passé très proche de faire une sculpture comme fin de l'affaire, en trois dimensions. D'après le dernier des Jéricho, le rouge, qui s'appelle RK. Qui est Jéricho, en fait. Puis c'est justement, je pense que pour suivre ce que je disais tantôt dans l'évolution, c'est que les deux premiers s'appellent Jéricho, une allusion à Barnett Newman. L'autre, c'est Jéricho, une variation. Les trois premiers s'appellent Jéricho, une allusion. Le quatrième s'appelle Jéricho, une allusion. Non. Le quatre premiers, Jéricho, une allusion.
Le quatrième,
une variation. Et le cinquième s'appelle RK. RK, c'est le nom arabe contemporain de David de Jéricho. Si j'ai décidé de faire ça, il y a deux raisons. Première, c'est que ça sortait de mes Jéricho, mais non plus du Jéricho de Newman, mais pas du tout, parce qu'il n'y avait même plus de ligne centrale, il n'y avait plus de division centrale. Le triangle était complètement isocèle, asymétrique, puis il est encore tronqué, puis il est encore sur un rectangle, mais seulement qu'une couleur. Uni, mais pas divisé. Donc, ça n'a plus rien à voir à faire avec, ni de loin ni de proche, avec celui de Newman. Mais il était issu des autres, de mes Jéricho. Donc, ça devenait logique pour moi de donner l'autre nom arabe de la ville de Jéricho, qui s'appelle RK.
Mais qu'est-ce qui est. Tu sais, dans l'autre, on a parlé des gris, qu'est-ce qu'ils faisaient. Pour toi, qu'est-ce qu'ils font, l'ensemble des Jéricho, leur fonctionnement?
Mais dans ce processus-là, entre le Jéricho et RK, c'est que RK, à ce moment-là, pour moi, aurait pu prendre soit un nouveau départ complètement, ou c'était la fin d'une chose. Bon. Mais ça, c'était pas encore tout à fait réglé, cette affaire-là. Okay? J'ai passé très près de le régler en faisant une sculpture en trois dimensions, parce que ça appelait la tridimensionnalité, c'était-là, à mon avis. Quand je voyais le RK, j'avais l'impression que ça me tentait bien gros de faire le tour du tableau. Donc, une tridimensionnalité. Je pensais bien proche de faire une sculpture. Mais je me suis arrêté à temps.
Pourquoi tu t'es arrêté à temps? Tu dis que tu t'es arrêté à temps?
Oui, parce que la possibilité à ce moment-là, c'était vraiment que si je m'en allais pour le faire en trois dimensions, ça voulait dire que je poursuivais cette problématique. Je ne serais pas arrêté à une sculpture.
Tu serais embarqué dans...
Je serais embarqué dans la sculpture. Puis le choix se posait de m'embarquer dans la sculpture ou non.
Ou de fermer la série.
Donc, je ne voulais pas m'embarquer dans la sculpture parce que ça ne m'intéressait pas à long terme. Hein? J'ai décidé de voir si j'y allais sur le plan du tableau, jusqu'où ça se presserait en ce temps-là pour le fermer. Jusqu'à temps que ça ait perdu son kick mental. Le tableau suivant s'appelait Arriha, qui est une autre façon de nommer la ville de Jéricho. Ça a l'air ridicule, mais là, j'aurais pu m'en aller de façon perse, de façon...
De toutes les langues.
Arriha posait le problème encore de RK, mais dans sa multiplicité du diptyque. Deux fois une couleur sur un pan. Pas divisé, ainsi de suite. Je reposais le problème de la ligne centrale avec, mais comme connexion, ainsi de suite. Ce qui finissait, qui reprenait la variation, puis qui reprenait RK ensemble, pour le remener encore un peu plus loin. Et puis ensuite, j'ai pris la ligne du centre, et puis elle-même, cette ligne-là est devenue régulière. Un tableau qui s'appelle l'étude pour RIA. Qui repose encore un petit peu plus loin. Donc, la ligne centrale qui avait toujours été symétrique, hein, plus droite, au départ, ça, c'est un aspect que je n'avais pas touché dans la série, c'est de développer pour que les deux côtés disparaissent, mais que la ligne centrale demeure, et c'est elle qui forme les deux angles, mais tout en engageant sur la surface en même temps. Ce qui devient... Non, pas autant. Et après, c'est arrivé dans un tableau qui s'appelle blanc-noir, qui fait exactement la même chose, le divise, qui m'a permis de continuer à faire ça dans les inversions, puis qui m'a permis d'arriver avec la conclusion complète sur le plan graphique. Donc, j'ai fait tout un espèce de grand set. Je suis revenu à l'élément graphique et la ligne, dans les phases 1, 2, 3, mais qui repose d'une façon définitive, si tu veux, pour moi, là, la problématique d'une division de surface. Là, je l'ai fait en hauteur, puisque c'est la face. Donc, la série, pour moi, maintenant, est close.
Est-ce que le R69, le R81 ou 82 était fait, le tableau?
Non, il n'y a pas eu, parce que je suis revenu à ce moment-là, la problématique qui a immédiatement précédé Jéricho, mais qui se retrouve dans les deux premiers Jéricho. Puis qui se retrouve aussi que la poursuite de ce qui a été posé avec deux bruns, deux gris, en 1905, je reprends cette thématique-là, de la diagonale, et puis je m'en viens pour la développer dans une heure. Ah, c'est ça que je pense en
moment.
Là, je suis reparti, là, à reprendre le 115, mais ce fois-là, c'est une manière posée, régler le problème, là, d'une possible tridimensionnalité, d'éléments presque du shape. En fait, les échos sont, vers la fin des trois derniers, des shape canvas sur un format classique rectangulaire. Donc, cette dichotomie qui se passe entre les deux concepts, pour moi, c'est très intéressant. Puis, je l'avais vu sur cette possibilité-là, qui m'intéressait de toucher pour un certain moment. Comme ça m'a intéressé de toucher à l'eau forte à un moment donné, comme ça m'a intéressé de toucher à la pointe sèche.
Que tu n'avais pas touché depuis...
J'avais pas touché depuis au-delà de 20 ans. Je n'ai pas touché la suite depuis ces choses-là. Puis l'occasion se présentait de le faire, qui m'intéressait de le faire, puis de poursuivre, puis de clore avec des gravures, c'est assez étrange. Parce qu'à mon cas, une gravure annonçait toujours quelque chose plutôt que de clore quelque chose avant. Tandis que maintenant, là, je suis clos quelque chose.
Tu fermes en mineur, on pourrait dire.
Tu fermes avec la clé. Ben, je peux pas faire mineur.
Non, non, mais là, c'est parce que c'est moins imposant, c'est en
écharpe. Oui, mais aussi, le côté santé, là, puis, si tu me donnes ta pote, tu vas te faire des grosses foyers. Des gros mastodontes, là.
Mm-hmm.
Même, ça a été quand même assez violent, personne aussi. Mais ça, c'était fini. Maintenant, le côté rythmique, je le perçois encore dans ces choses-là. Mais je le perçois de façon complètement différente. Le rythmique des plages est beaucoup plus subtil que le rythmique graphique. Naturellement, le rythmique graphique, c'est lui beaucoup plus fascinant. Tandis que ça, des plages, est beaucoup plus subtil et encore beaucoup plus exigeant, plus abstrait que le rythmique graphique. Le rythmique graphique, c'est un schéma.
Le temps est mieux marqué.
Il y a autant de différences, si tu veux, là-dedans, que tu en aurais entre, si on parle encore en comparaison musicale, mon père t'as fait ces gens, on ne sait pas ce que c'est, entre une musique de chambre et une musique symphonique. Tu comprends? Oui, tu n'as pas du tout la même approche de rythmique, tu n'as pas même ni d'incantation, ni de sonorité. C'est peut-être un petit peu la raison pour laquelle, ici, je suis intéressé de retourner à l'école pour faire la série. C'est qu'à ce moment-là, je redevenais, je retestais justement toute la série des échos en me reprenant par les mains graphiques, parce que c'était fini par les mains graphiques. À ce moment-là, je regardais encore si la rythmique, les formes, tout en faisant, parce que les phases, c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils posent en même temps la question graphique et la question des formes. Parce que les tableaux essayaient de faire, à un certain moment donné, mais pas aussi explicite que la gravure l'a fait à la fin. C'est pour ça que ça pose le problème. Parce que les phases sont une fois faites, une ligne tracée. Cette ligne-là s'affirme en tant qu'élément graphique, mais cette ligne-là a une autre fonction encore plus importante, à double lecture, c'est que cette ligne-là dessine deux formes, celle du haut et celle du bas. Et la rythmique se pose dans cette multiplicité qui existe entre les éléments graphiques. Entre les éléments graphiques d'un côté et les éléments des formes. Les éléments graphiques sont explicites, les formes sont implicites.
Mm-hmm.
Hein? Mais cette rythmique des deux, une par rapport à l'autre, est extrêmement importante pour la lecture de l'œuvre, autrement on ne voit absolument rien. Au point que l'utilisation de la cuvette est très importante pour la définition de cette forme. Mais c'est une définition implicite encore parce que c'est la cuvette de la plaque.
Mm-hmm.
Ça. En opposition à la ligne noire qui a été, elle, gravée, c'est volontairement. Mais toute la conscience se fait une ambiguïté, mais une complicité entre les deux. Le positif et le négatif, la ligne plus bien, les deux.
Et la cuvette sert à fermer quoi les...
À tout fermer.
Ferme la plage, puis autrement dit, elle ferme les lignes. Les plages qui sont à l'extérieur.
Sont là.
Qui sont autour de la ligne, quoi.
C'est ça. C'est comme si on avait la ligne et le miel en même temps. C'est les deux. Ce qui n'est pas possible d'arriver à un tableau, à une synthèse aussi franche que celle-là. C'est pas possible.
Parce que c'est le geste de la ligne, c'est-à-dire qui est très marqué.
C'est l'opposition de la ligne avec la forme. Mm-hmm. C'est l'opposition de l'élément graphique avec l'élément de forme, formel. La forme shape en anglais, c'est beaucoup plus mieux. Hein.
Mm-hmm.
Dans le jeu, la complicité qui se passe entre the shape and the line,
mm-hmm.
on dit, hein. C'est que ce sont deux éléments qui sont incompatibles au départ, et qui sont rendus compatibles par la circonstance. C'est là que ça se passe. Mais à ce moment-là, j'ai réglé complètement, j'ai bouclé complètement toute la problématique qui s'était posée au départ, quand j'ai accepté de me lancer dans cette série qui s'appelait les Géricaux. Que dépasser les tableaux qui s'appellent les Géricaux,
mm-hmm.
mais que le concept que j'avais adopté dans une espèce d'allée très précise, là, j'avais dit que je la boucle, parce que si je ne boucle pas quelque chose, moi, je ne dors plus après.
Faut finir!
Comme toi, là, si tu ne vas pas pisser, tu ne dormiras pas.
Donc, la question, c'est ça. Comment se situe ton œuvre dans le milieu ici, ou dans la peinture?
Bon, J'ai jamais essayé de situer mon œuvre dans le milieu, pas rien des choses.
Quand on dit le milieu, si on parle de Montréal,
ouais, ouais.
Québec,
Montréal,
Canada.
Montréal, Québec, Canada, là. J'ai jamais essayé de le situer dans ce milieu-là. Parce que le milieu, même si j'ai de la misère à vivre avec, parce que j'ai eu des discussions assez fortes avec Rose là-dessus, quand elle était le catalogue, que je disais que mes raisons pour peindre ne venaient pas de la peinture elle-même au départ. Parce que quand j'ai commencé à peindre, il se passait à l'entour de moi des mouvements, des automatismes, des plastines. Je crois que c'est appelé à l'époque les plastines, pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui était, c'est-à-dire, c'est un mouvement de bavin, parce que le schisme. Et puis le schisme n'existait plus.
C'est difficile d'avoir un mouvement avec un gars.
Et même, puis il le respecte même plus maintenant parce qu'il est rendu qu'il fait de la peinture italienne. C'est vrai? Oui, j'ai ici.
Bon.
En tout cas, ça m'intéresse. Puis il y avait des mouvements qui se passaient à Montréal. Puis moi, je ne voulais pas m'associer à quelques mouvements que ce soit qui se passaient à l'époque ici, ni ailleurs. Parce que je trouvais que la peinture, ce n'est pas une question de mouvement, c'est une question d'approche personnelle. Puis qu'à ce moment-là, si tu t'allies à un mouvement, tu es obligé d'adapter les consignes du mouvement, puis là, tu es capable d'en débarrasser. Alors, moi, j'avais besoin de respirer à ma façon. J'ai été une espèce de lit solitaire, aussi bien en gravure, parce que mes premiers balbutiements d'une certaine valeur sont passés en gravure avant qu'ils passent en peinture. Mais même en gravure, j'étais un lit solitaire. Quand je suis revenu à la peinture après, je suis resté un lit solitaire, même si artificiellement les gens m'ont catalogué avec le groupe des plasticiens, parce que c'était une peinture avec forme très précise.
Ben c'est qu'il peut avoir des apparences.
Qui peut avoir des apparences de plasticiens. Je crois qu'à l'époque, les plasticiens me critiquaient énormément parce que je ne suivais aucune de leurs consignes. J'ai jamais été capable d'endurer d'être limité par des consignes. Alors, ce moment, dans le milieu, je ne voyais pas du tout. Je savais que je n'étais pas un artiste européen, quoique c'était indéniable, ça l'est encore indéniable, autant que ça l'était à l'époque. C'est la façon qu'on a grandi, qu'on a été éduqué, qu'on a fait avoir une marque de région rouge. Donc, une certaine proportion de l'éducation qui était européenne, ça s'arrête dans le cerveau, ça serait un petit peu diminué, mais aussi une proportion pas beaucoup plus forte que nord-américaine, ça aussi c'est dans le cerveau que ça serait un petit peu diminué. Où on se situe par rapport à ça, c'est extrêmement difficile, parce que si on monte à New York, on se dit qu'on est européen, puis si on monte en Europe, on se dit qu'on est New-Yorkais. Donc, c'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, on est bien compris, mais on doit avoir quelque chose. Qui doit nous appartenir, parce que si on se fait passer notre. On doit avoir une spécificité, quelque part, parce que si je regarde les artistes de Toronto, par exemple, eux autres sont vraiment dire à une époque que c'était des artistes anglais. Ils avaient raison, parce que ça venait dans une des vies, cette gang-là. Puis ils faisaient dire la même chose en Europe et puis aux États-Unis. Au moins, ils ne pourraient pas les États-Unis de l'Europe, t'es d'accord. Ce qui est très. Ça, je pense que c'est également vrai pour probablement presque toute la peinture à partir de Borgia, c'est fait du Québec. Parce que Borgia, à New York, si je ne me trompe pas, je le disais dans le catalogue de Borgia récemment, il est aperçu comme étant ni un artiste américain, ni un artiste européen, par un gars comme Klein, si je me rappelle bien.
Mais il ne voyait pas, il ne comprenait pas, non.
C'est-à-dire c'est qu'il savait fort bien qu'il n'était ni américain ni européen, mais il ne savait pas ce qu'il était. Ce qui est déjà une indication, je pense que Klein avait vu plus juste que les autres.
Et c'est voulu, Borgia s'est découvert américain, c'est quand il était à Paris.
Oui, mais malheureusement, c'était trop tard. Parce qu'il a fait le meilleur tableau quand il était à New York, à mon avis. C'est là qu'il a fait le meilleur son instrument supérieur,
c'est
ce qu'il a fait à Paris.
C'est là qu'il a découvert, il était rendu à Paris.
C'est ça. Moi, je l'ai découvert ici. Puis, à l'époque de ma formation de base, là, j'étais rendu, très souvent là. J'ai vu toutes les grosses expositions marquantes, comme par exemple l'assemblage, qui était le lancement du Popper en 72. Ça, j'étais au courant de tous les mouvements américains qui se passaient aussi bien que ce qui se passait en France, aussi bien que ce qui se passait ici.
C'était facile de savoir ce qui se passait en France, il ne se passait rien. Ah
oui, vous avez le cas de Paris, qui est souvent dans une boîte de concert. Il était.
C'est peint par Warhol, qui paraît.
Ah oui. Avec Jeanne Didier, puis qui lui gagne là. Mais je me sentais vraiment pas influencé, ni par directement. Il y a toujours des influences, naturellement. Directement, là, ni influencé par un ou par l'autre. Il y avait des choses qui m'intéressaient dans la peinture européenne. Plus ancienne.
Des choses... plus ancienne, c'est vrai.
Ben, les impressionnistes, les cubistes. Donc,
début de siècle. Tournant du siècle.
Tournant du siècle, ces choses-là, les surréalistes, tout ça. Quoique je ne me sentais pas attiré vers ça, d'esprit. Puis dans la peinture américaine, je n'étais pas attiré non plus par le Popper. Je n'étais pas attiré non plus par la peinture gestuelle. Quoique l'esprit de ces choses-là me prenait beaucoup plus que l'esprit du tableau qui se faisait à ce moment-là par l'école de Paris. Mais c'était surtout la musique, la littérature, la philosophie qui m'ont formé, qui m'ont permis de synthétiser. Donc, c'est vraiment toutes ces expériences-là, quand je commence à décortiquer, je suis capable de dire, ben, je vais mettre une pierre à pied de ça, plus une pierre à ça, de cette affaire-là. Il y a un mélange qui s'est fait là-dedans, c'est inévitable. Et je ne me perçois pas comme un peintre, j'aime pas non plus être perçu comme un peintre montréalais, québécois, canadien, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. L'autre partie de l'affaire, c'est comment je pense que ma peinture est perçue ici, ou que quelle importance qu'elle peut avoir dans un contexte, ça, on ne sait jamais. Tu demandes à un peintre, lui, il a sa façon qu'il pense être vu. Tu vas demander à des personnes du milieu comment ils voient ce peintre-là, puis autant tu auras de personnes, des fois autant tu auras des visions différentes. La contribution est une chose. Alors à ce moment-là, moi je trouve que c'est pas important. Parce que de toute façon, la vision, elle va être une distorsion absolument impossible à redresser après ça. Ce qui va se faire, c'est probablement avec le temps, s'il y a lieu, ben, il y a une espèce de bilan qui sera. S'il ne se fait pas, il ne se fait pas. S'il se fait, il se fait. Tout simple que ça.
Mais ce que tu parles du bilan, c'est toi qui le fais ou quelqu'un
d'autre?
Non, quelqu'un
qui le fait, c'est la société qui le fait bien longtemps après.
Okay.
Ce qui, pour moi, a le plus d'importance, par exemple, c'est la durée d'un tableau. Puis là, je veux dire durée, là, pas seulement que la durée
du regard
du regard, tableau, mais combien de temps ce tableau-là va avoir une signification. Ça, pour moi, c'est un élément qui est beaucoup plus important parce que c'est le seul qui vaut vraiment la peine. Si tu regardes des tableaux qui ont été faits en 1950 ou en 1960, et puis en regardant le tableau, tu es obligé de consciemment excuser le tableau parce qu'il a été fait en 1950 ou en 1960 pour le regarder. À mon avis, c'est là vraiment une des carences fondamentales de l'œuvre. Si par contre, tu regardes un tableau et que tu ne mets pas de date dessus parce que le tableau parle aussi bien aujourd'hui qu'il aurait parlé à l'époque, ça c'est déjà un signe de sa qualité, son endurance. L'endurance de l'œuvre. Pour moi, l'endurance de l'œuvre, c'est son phénomène le plus important. C'est un phénomène qui se manifeste de plusieurs façons. Son endurance, à la vue journalière ou presque des gens qui en possèdent un, que l'endurance de cette œuvre-là au travers dans une société, dans une culture, c'est-à-dire, plus qu'une société. Ça, c'est deux endurances différentes, mais qui se rejoignent. Parce qu'une prépare pour l'autre. Moi, ce que j'appelle la vie d'un tableau, pour moi, c'est la durée, le temps que ce tableau-là va continuer à m'intéresser. Que ce soit, par exemple, que ce soit un Jim Dine que j'ai chez nous, que non, que ce soit chose qui s'appelle l'anglais, petit dessin que j'ai, non, on connaît avec les noms.
Oui, quand tu pars de travail.
Hopney. Okay. Hein, ce sont un Hopney que j'aime pas particulièrement comme peintre. Mais par contre, le dessin que j'ai vu, que je trouve un dessin absolument superbe. Dine, que j'aime certaines choses, beaucoup de Dine, mais je suis loin d'aimer tout ce qu'il a fait. J'ai une gravure qui tient le coup depuis longtemps, de Dine. Je ne m'en débarrasserai pas pour beaucoup, parce qu'à chaque fois que je m'arrête pour la regarder, elle se laisse découvrir encore plus profondément. Pour moi, ça, c'est l'endurance de l'œuvre. Ça, ça donne, par exemple, que c'est un Dine, un parmi les meilleurs qu'il a fait. Je n'ai pas choisi n'importe lequel.
Mm-hmm.
Bon. Ou que ce soit, par exemple, je ne sais pas, parmi les Roscoe, ces affaires-là, que ce soit même parmi certains des tableaux. Je puis assurer, d'une façon, je pense, détachée, là, que de la série de gravures en hommage à Weberne, de 63 à 83, ça fait exactement 20 ans qu'elle a été faite. Et puis tu en sors aujourd'hui, tu as mis ses murs, et puis tu pourrais jurer que c'est une gravure qui sort directement de la fête. Et puis elle a autant d'originalité, elle comporte autant de nouveaux éléments.
Elle a autant d'informations aujourd'hui,
après 20 ans d'usure, tu veux qu'elle l'avait il y a 20 ans. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment un témoignage de la qualité de l'œuvre. Et puis ces témoignages-là, quitte à me faire passer pour prétentieux, sont assez rares dans la peinture canadienne. Ou même dans la peinture américaine, ou même
dans la peinture.
Dans l'art, c'est assez rare.
Dans l'art contemporain.
Une œuvre n'a pas de date. Tu vas regarder certains Rothko, tu vas regarder certains Newman, tu vas regarder certains Mondrian, tu vas regarder certaines affaires de main qui n'ont pas de date. Tu vas regarder même les monnaies, les genres de monnaies qui sont là-bas, ils n'ont pas de date. C'est, pour moi, ça, c'est la mesure de l'affaire. C'est à ce niveau-là que ça se situe, plutôt, c'est à ce niveau-là qu'il doit être perçu, plutôt que d'être perçu dans un, tu sais, un moment, là...
Dans un petit déroulement historique local ou
autre,
la petite histoire.
C'est la petite histoire, là. Mm-hmm. Ça m'intéresse vraiment pas.
Mm-hmm.
Vraiment pas. Pour moi, l'œuvre d'art dépasse cette petite histoire-là. Quand elle ne dépasse pas, on reste au règne de la culture de la science réfléchie.
Comment penses-tu que le Québec réagit à ce niveau-là? Comment ça se passe ici, présentement?
Moi, j'ai aucune idée. Je ne fais pas partie du milieu.
Bon, tu vis, t'es quand même dans 5 quand même,
Ça ne veut pas dire que tu fais partie d'un milieu. Faire partie d'un milieu, ça veut dire partager certaines préoccupations.
Mm-hmm.
Je vis en solitaire, parce que je le veux bien. Non. Parce que je le veux bien, parce que ça m'intéresse de vivre en solitaire. Quand je donne mes cours, par exemple, je prends solitaire. Mais je ne donne pas mes cours basés sur une culture locale.
Mm-hmm.
Loin de là.
Mais quand même, tu sais qu'il y a une chose, tu étais quand même beaucoup plus impliqué dans le milieu, ne serait-ce que par des expositions, d'ici, des ça. La dernière date un peu, la dernière fois.
Non,
80. Ah, c'est vrai,
tu as
eu chez
Graff. Oui. J'ai eu au Musée d'art contemporain en 80, avec les Géricault, il a été montré là.
Ah, c'est vrai.
Puis à part ça, l'an passé, j'ai montré un tableau. C'était quand même un tableau de format respectable, c'est Yajima.
Mm-hmm.
Ça, ben, tel que le public n'a pas été informé par ses critiques, mais ça, c'est pas de ma faute.
Mm-hmm.
C'est pas du fun. il y a chez Graff, la semaine de la gravure, que je montre les choses. En fait, même si c'est pas une activité très, 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 très trépidante, si tu veux, moi, ça ne me dérange pas parce que. Si les choses sont montrées au fur et à mesure qu'elles doivent l'être, puis s'il y a des choses qui ne doivent pas être montrées à certains moments, elles ne sont pas montrées, il faut que je cherche ça.
Mm-hmm.
Je n'ai pas de cédule mercantile qui m'intéresse.
Mm-hmm.
Parce que le reste, ça devient une cédule mercantile, cette affaire-là.
Mm-hmm.
Je pourrais te dire que c'est les nouveaux costumes de bain là, pour les deux prochains, quand les autres sortent, ça m'intéresse.
Mm-hmm. Comme ça, tu te détaches complètement du milieu, c'est tout ça.
C'est pas que je me détache complètement du milieu, c'est que je me rends compte que le milieu n'est pas attachant. Et que si tu t'attaches à un milieu, si tu t'attaches à un côté très superficiel, ça n'a rien à voir à foutre avec fondamentalement l'essence vraiment de ce qui me pousse à agir.
Mm-hmm.
Tu as dit le milieu t'alimente d'aucune façon, tu n'es d'aucune utilité.
Mais il m'alimente, oui, il faut qu'il m'alimente d'une façon ou d'une autre. Si je jase avec toi cet après-midi, puis un échange d'idées, si je me suis alimenté, si je vais voir une exposition, puis que j'ai des choses qui m'intéressent là-dedans, puis qui me poussent à réfléchir, je suis alimenté.
Avais-tu vu ces choses-là récemment?
Ben, c'est une question de niveau.
Tu sais, regarde depuis 68-83, restons à ce point-là.
Niveau.
Oui, mais il y a des choses, c'est des choses qui vraiment te fangent.
Non, je dois avouer là, qu'en peinture contemporaine, en ce moment, on vit un creux que ça fait longtemps que la peinture n'a pas vécu. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Il y a une œuvre par-ci par-là, une peinture, un tableau, ou l'œuvre d'un peintre par-ci par-là. En fait, dans les peintres contemporains, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Dans les vivants, là, c'est écarté. Que je trouve qu'il y a une qualité vraiment derrière lui. C'est durable, puis qui mérite en fait d'être pogné à fond, là. Et puis d'être regardé très sérieusement. À mon avis, je regarde en tout moi, c'est le seul. Il y avait de la peinture qui se fait, par exemple. Mm-hmm. C'est certainement pas de la gang de Rosenberg, de Greenberg, vous voyez, qui est vraiment inspirant à longue haleine, que ce soit de Norlund, ou que ce soit de Stella, ou que ce soit de ce gang-là, en dehors justement de la promotion de la cartelle, il n'y a pas grand-chose. Le seul qui avait quelque chose à dire, de vraiment durable, il est mort, bien jeune, c'est monstrueux. Les autres, je m'excuse, mais c'est loin d'avoir des tops de monstrueux. Tu regardes Lewis, puis tu regardes les autres, puis ça fait pitié. Suite à mesure qu'il est là, Lewis en est un autre que tu peux pas mettre de date, c'est ça.
Mm-hmm.
Et c'est justement sa grande force. Ça me dit que j'ai jamais vu un Stella ou un Orlan que tu peux pas mettre de date dessus. Mm-hmm. Malheureusement, là.
Mais ici au Québec, y en a-tu des peintres?
Non, moi, t'as pas dit.
Même
pas parler. Parce qu'à ce moment-là, tu fais de la fiction. C'est toujours perçu d'une façon autre que si. Trop proche de la maison.
Mm-hmm.
Pourtant,
tu étais un gosse, je me souviens, quand tu as fait l'exposition pour l'Académie royale, tant qu'en fait, la pression, il y en avait eu, hein, dans le temps, ça fait 12 ans, ça.
Ouais, ça fait 12 ans. Ouais, c'est dans le temps que ça ne me faisait rien de sortir avec les deux points dans le coin de mon arène, puis commencer à me battre, parce qu'il y avait, des raisons de se battre. Puis, je croyais encore, il y a bien des choses qui maintenant, là, je crois. J'ai perdu le...
C'est ce que tu as quoi tu croyais à ce moment-là?
Toi non plus, n'en parle pas plus.
Parce
non,
que... C'est loin, hein? Ouais, c'est après.
Non, non. Non, c'est justement... Mais pour l'opposition d'Itoire et puis l'Itoire, c'est plus loin, c'est très fort. Non, à force de mûrir, tu perds tes illusions. Puis quand tu as perdu tes illusions, je redeviens situé à l'essence de certaines choses, puis le reste, c'est plus important.
Mm-hmm.
Non, mais par rapport, par exemple, à un milieu, tout ça, je me faisais reprocher justement, il n'y a pas tellement longtemps, par Lucio de Heuf, depuis quoi, 1970-71, que d'autres, en fait, ils m'ont lu parce qu'ils étaient élèves à l'École des Beaux-Arts dans ce temps-là, que j'étais, je ne faisais pas partie du milieu, j'étais très distant du milieu, puis que maintenant, je suis plus présent dans le milieu. Bon, ça, c'est vraiment ironique, ça rejoint ce que je disais tantôt, la façon dont on se perçoit, la façon dont les autres nous perçoivent, c'est complètement différent, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et tu essaies de le contrôler à ce moment-là, tu es perçu encore d'une autre façon de faire. C'est que c'est justement durant le temps où Lucio considère que j'étais pas présent, j'étais le plus présent.
Mm-hmm.
Parce que c'est à ce moment-là où j'étais le plus présent, parce que sur les jurys où j'ai défendu l'art québécois à mort, au Conseil des arts où j'ai défendu l'art québécois à mort, même si au Québec, si on disait que je coulais, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait là-bas, et puis que j'exposais régulièrement, mais très régulièrement, tandis que maintenant, je n'expose presque plus.
Ben, il n'y a pas de rythme régulier, ça...
Il n'y a aucun rythme régulier, je n'ai pas l'intention d'en recréer un non plus. La seule différence, c'est que je vois un petit peu plus de vernissage.
Je pense qu'il dirait, c'est parce qu'il te voit plus, il pense qu'il est plus présent.
Bon, mais je suis beaucoup moins présent...
Mais tu n'as pas d'action directe
sur le côté important, l'action directe que je vais à ce moment-là. parce que je ne fais plus du conseil des arts, je ne fais plus de jury, je ne fais plus de toutes ces choses-là, je ne me bataille plus pour les idéologies et les affaires de même, parce que je trouve que c'est aux jeunes de faire leurs affaires. Moi, j'ai fait ma part de ça, les autres de le faire. Tant que j'étais jeune, je n'en ai pas oublié de le faire. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'est ça la façon dont on est perçu.
Mais dans l'enseignement, comment tu vois ça? Parce que là, ça fait...
Dans l'enseignement, mais là aussi. Bon, dans l'enseignement, ça c'est autre chose.
Comment ça se place? Ton...
Ben, ça se place très bien. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais l'illusion, encore une fois, qu'on enseignait pour former des artistes.
Mm.
Bon. Je me suis vite rendu compte que c'était pas tout ça. Puis après ça, je me suis rendu compte un peu plus vite que c'était pas ça partout. Donc, à force de réfléchir, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plusieurs raisons d'enseignement. Il y en a une, ça aurait peut-être été pour former des artistes, et ça, tu t'en comptes peut-être un par deux, trois ans, tu sais, t'es chanceux, tu vas continuer, je pense. Une autre, c'est que tu prépares des gens aussi à des activités connexes. Tu vas de l'enseignement. Donc, tu essaies de les rendre un petit peu plus lettrés dans ce qu'ils ont enseigné plus tard. Ou encore, tu vas le travail de musée ou de n'importe quoi, de critique ou n'importe quoi. Ça, c'est le deuxième palier qu'on enseigne. Puis peut-être le plus important de tous, c'est d'aider des gens qui ont été des victimes vraiment d'un système d'éducation étouffant, qui ne leur a pas permis à quelque moment que ce soit depuis leur naissance d'être eux-mêmes, parce qu'on leur a montré comment tout faire, de tenir un crayon, de parler, de tout. Donc, ils n'ont aucune chance de manifester quelque individualité que ce soit. Et c'est des forcés à devenir eux-mêmes, au travers d'une activité qui s'appelle l'écriture là, sur une surface. C'est celle-là qui est la plus importante de toutes. Parce qu'à ce moment-là, ça rejoint tout en même temps. Parce que tu rejoins celui qui a à devenir peintre. C'est l'élément, le premier élément, l'élément de base que tu dois acquérir avant d'aller plus loin. Parce que le peintre va se faire par lui-même, il ne sera pas fait par les autres. Du moins le peintre de qualité, là, c'est qui deux. Deuxièmement, si tu vas en faire un éducateur, le fait que tu as réussi à lui redonner une liberté, ça va le pousser, lui, à vouloir donner une liberté aux autres plus tard, plutôt que de le maintenir dans une espèce de système atrophiant. Et puis troisièmement, c'est que s'il va ni un ni l'autre de ces deux premières, en tant qu'individu, tu lui aurais donné le moyen de vivre une vie intérieure beaucoup plus riche.
Mm-hmm.
À ce moment-là, tu gagnes sur tous les plans, puis moi, je justifie l'enseignement à partir de ça.
Penses-tu que l'enseignement, lui, comme tu dans le cas de Concordia, c'est ton milieu?
Non, c'est pas mon
milieu. Énorme, non, mais c'est ton milieu de travail, je veux dire.
Mon milieu de travail, moi, c'est l'intérieur de mon atelier. C'est pas Concordia.
Non, mais je veux dire, quand t'enseignes.
Quand j'enseigne, c'est l'intérieur de mon atelier, c'est pas Concordia.
Oui, mais Concordia, quand même, fait des petites pressions.
Sur mon enseignement, aucune.
Avec les changements qu'il y a, on a une tendance, il semble voir que Concordia.
Sur la qualité de mon enseignement, sur la façon d'enseigner, absolument aucune, je n'en endurerai jamais. J'en ai jamais enduré depuis que je suis là, puis ça fait depuis 76. C'est 18 ans, tu vois. J'ai jamais enduré une ingérence dans ma façon d'enseigner là-bas. Puis je ne l'endurerai jamais, parce qu'ils ne cassaient pas d'arriver dedans, parce qu'ils vont se faire taper ses doigts. Parce que. Il ne faut pas oublier que j'ai été pas mal instrumental sur le développement de faculté quand ça s'appelle sur George Roland. J'étais le premier professeur francophone là. Il n'y avait aucun élève francophone à l'époque. On est rendu avec quoi plus de 60% d'élèves francophones, puis moi, j'étais un professeur francophone. Donc, beaucoup d'entre eux ont été engagés sur ma recommandation, puis pas seulement sur ma recommandation, des fois sur ma bataille que j'ai menée pendant des années de temps, dont Ulysse, Contois, dont Molly, Gauguin, à l'époque, François Soucy, Seigneur, tout un mot du paquet, j'ai fait rentrer. Parce qu'il fallait à ce moment-là qu'il y ait une alternative à l'École des Beaux-Arts. Je suis plein de l'approche de l'enseignement.
Mm-hmm.
Mais de plus en plus, Concordia a grandi, a grossi comme moi. vieux, l'enseignement a été individualisé, puis n'oublie pas aussi qu'il y a eu d'autres sources qui ont été injectées là-dedans. Il y a eu des Américains qui sont arrivés avec tout frais neuf de leur maîtrise en éducation de l'art, puis de leur maîtrise en art visuel. Puis avaient eux autres subi un certain enseignement, mais mauditement pigeon-holé, comme on dit. Là. Et puis qui arrivent ici avec leur recette d'enseignement, puis qui perpétuent ce rang d'enseignement universitaire américain ici. Il y avait nous autres, quand je dis nous autres, je dis les Québécois qui ont été engagés sans diplôme, hein, et sans aucun maniérisme pédagogique, que j'appellerais ça. Puis que chacun de nous a dû faire l'élaboration de son œuvre, le fait de l'élaboration de son enseignement, a appliqué ses propres ressources là-dessus, avec sa propre vision. Ça, moi, je trouve ça extrêmement important. C'était ce qui manquait de plus à l'École des Beaux-Arts à ce moment-là, parce que tout le monde avait la même vision d'enseignement, ou presque.
Mm-hmm.
Puis moi, c'était un élément que j'essayais de sauver, puis maintenant. Les attitudes multiples. Et maintenant, ces attitudes-là ont été tellement multipliées, sont plus que multiples à ce moment-là, sont tellement innombrables. C'est encore mieux, ça, que d'avoir un espèce de système intérieur. C'est ça que je dis, mon enseignement, il n'y a pas de milieu là, concordia. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de micro-milieux dans cette affaire-là. Peut-être parler d'un milieu beaucoup plus dans le cas de la maîtrise. Parce que là, tu as quelques personnes qui se rejoignent, qui se recoupent d'une façon ou d'une autre. Très, très peu de personnes. Là, tu peux peut-être parler d'un milieu aussi. Puis je pense personnellement que c'est au détriment justement du programme de maîtrise. Il y a un milieu qui se recoupe là-dedans. Parce que ça devient une petite attitude de philosophie. C'est bon. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut être bien clean. Il y a une espèce de faux côté de professionnalisme qui se passe là-dedans.
Il y a des pressions incroyables.
Quelles des pressions qu'elles n'ont pas. Moi, j'ai enseigné deux reprises au niveau de maîtrise. J'étais engagé en premier au niveau de maîtrise. Puis je suis réintégré au niveau de maîtrise. J'en suis reparti des deux fois à cause des mêmes raisons. Puis à ce moment-là, si les pressions se forment, tu acceptes de battre contre les pressions ou tu t'en vas.
Mm-hmm.
Bon, les deux fois, je me battais contre les pressions, tant que j'ai voulu me battre contre les pressions, quand je me suis tanné, j'ai décidé de m'en aller. Une autre raison aussi, c'est que je pense que si un enseignement est dirigé avec toute son intensité, les trois premières années universitaires, au bout de trois ans, la personne que tu es pendant trois ans est prête à s'en aller, puis prendre soin de ses propres ressources, puis d'être allé tout seul dans son atelier, puis lui va s'en aller. Il n'y a pas besoin de s'en aller au niveau de maîtrise si les trois premières années étaient bien. Les trois premières années n'ont pas été assez intenses. À ce moment-là, tu t'en vas dans le niveau de maîtrise, puis tu vas encore te faire beurrer, toutes sortes d'autres affaires par-dessus, puis quand tu vas retourner dans son atelier, ça va être encore un autre délai avant qu'il puisse assumer vraiment son affaire. Parce que c'est ça. L'enseignement en art, c'est vraiment de préparer une personne le mieux possible pour le premier jour pour avoir à faire face à ses propres à toutes ses responsabilités dans son atelier et tout ça. Pour moi, c'est ça l'enseignement.
Que la personne s'assume elle-même, quoi.
Qu'elle s'assume elle-même. Ça peut parler à ça. Puis quand elle est prête, c'est du potable. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ça dépend de l'individu. C'est à ça, pour moi, qu'il faut viser. C'est pas nécessairement à ça que les autres professeurs vivent.
Mais non, c'est que dès que tu as une maîtrise, automatiquement, il y a un papier, le monde doit avoir le diplôme.
Oui, mais même au niveau du bac, c'est pas tout le monde qui vit le même objectif que moi. Moi, c'est celui-là que je vis, celui-là que j'ai toujours visé.
Mm-hmm.
Puis j'y crois à cet objectif-là. Puis je ne changerai pas. Même s'il y en a d'autres qui vont faire passer certains contrôles d'enseignement, tout à fait de même, ça c'est leur affaire. Mais moi, les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai
tu les as bien énumérées tout à l'heure.
Tu sais, je les ai réfléchis, puis j'ai passé une année sabbatique à les remettre en question. À les retester pour savoir si c'était vraiment ça ou si c'était pas ça.
Tu es arrivé à la conclusion
que
c'était
bien. J'avais la conclusion que c'était ça, mais encore plus. Donc, j'ai encore élaboré un peu plus d'éléments pour le plus rapidement possible d'essayer à faire prendre conscience à des jeunes ou à des moins jeunes, puis des fois à des vieux, hein, que l'écriture d'un peintre, sur une surface qui s'appelle la toile. Hein? Il faut arriver le plus rapidement possible à la personnaliser de la même façon attendu, que quand tu prends un crayon et que tu as ton écriture sur un bout de papier, tu peux donner un document légal en cours d'identification d'un personnage. À tel point ça peut être personnel, donc l'écriture sur une toile doit devenir aussi personnelle. Tu commences par ça. Et après ça, ben, ça se développe ou ça va se développer. Puis ça se peut que ça soit dans une forme d'art très différente que celle du départ, de ce que tu auras donné comme base, par exemple, ça va se maintenir, ça tu fasses n'importe quoi après. Donc c'est plus une question de style, de commencer par figuratif, non figuratif, ou de commencer par performance, quoi que ce soit, n'importe quelle affaire. C'est pas une question de style, quoi que ce soit, c'est une question de partir à l'essence.
C'est une question d'attitude.
De partir à l'essence. Que c'est bien beau de dire, par exemple, bon, mais tout le monde va travailler là, dans un happening. Hein? Si la personne n'est pas capable, elle n'a pas son écriture personnelle à la base, elle se manifeste pas plus dans un happening, ça va se manifester dans n'importe quel état.
Dans un
pouce par un pouce. Tu commences par les outils les plus simples avant d'arriver à des choses plus complexes. Moi, ça reste là.
Donc, sur le milieu comme tel, t'as vraiment pas grand-chose à dire. Penses-tu, parce qu'il y avait une question, c'est ça, penses-tu qu'on peut parler d'un art québécois?
Si on en parlait, c'est une mauvaise affaire. Tu parles tout de suite d'une chapelle, tu parles tout de suite de type nerveux.
On peut-tu parler d'un art américain?
Je peux parler d'un art new-yorkais. Et ça, c'est tout situable qu'on peut parler à un moment donné d'une école de Paris. Puis quand on a réussi à pouvoir dire, oui, on peut parler d'une école de Paris, c'était déjà fini. Puis maintenant qu'on peut parler d'une école de New York, c'est déjà fini. Comme quand on a pu parler d'une époque du West Coast, ça a été déjà fini. C'est important tant que tu ne vas pas mettre l'étiquette dessus. Quand tu as mis l'étiquette dessus, ça veut dire que c'est bien de valeur, c'est un produit. Puis quand tu peux donner un produit, ça veut dire que tout ça, ta force est différente de base. Tu peux parler d'un art qui a été produit à New York. Donc, tu peux parler d'une peinture qui a été faite à Montréal. Moi, je suis un peintre qui travaille à Montréal. Je suis pas un peintre montréalais, entre guillemets. Ceux qui sont des peintres montréalais, à mon avis, sont bien mal pris. Comme ceux qui sont des peintres new-yorkais sont très mal pris. Si tu regardes, par exemple, Rauschenberg, qui était new-yorkais, en fait, c'est un texan. Il était plus new-yorkais après avoir vécu 2 ans à New York, puis il était de ce qu'on appelle du Texas. Puis tu regardes toutes les origines, Roscoe, c'était un juif russe. Hein, et puis, de Kooning, c'était un Hollandais, il a même fait partie du groupe Cobra, avant qu'on arrive à gauche. Klein, il est né en Allemagne. Ce qui les rendait new-yorkais, c'est que c'était des peintres qui travaillaient à New York en même temps, puis ils avaient un point commun, c'est d'arriver à une nouvelle attitude face à la peinture, qu'eux autres ont appelée américaine.
Parce que
c'est passé là, New York School, parce que ça s'est passé à New York. Mais pas, c'était pas une peinture que tu peux dire issue à cause de New York.
Donc ça s'est finalisé à New York.
Ça s'est fait à New York, mais pas à cause de New York. Mondrian, en fait, il y a eu une évolution entre les tableaux qu'il a fait à Paris, puis après ça à Londres, puis après ça à New York. Mais le Broadway Boogie Woogie, il aurait probablement arrivé, la même chose s'il était resté en Angleterre. Puis le Trafalgar Square, il aurait probablement fait s'il était resté à Paris ici, quand il a fait la place de Concorde. Puis la différence entre ces trois tableaux-là, pour une personne qui ne connaît pas les titres, je me demande fort s'il est capable d'identifier l'affaire. Puis quand les gens commencent à identifier le Broadway Boogie Woogie avec le Broadway, puis les Lumières, et puis les Saint-Pierre, tout à fait de même, je m'excuse, mais moi, du tableau.
Oui, le titre était choisi bien plus par hasard.
Bon, la même petite affaire que quand les gens, qui me disent c'est beau mon Jéricho, c'est la même petite affaire, là, c'est d'essayer désespérément la bouée de sauvetage, avoir quelque chose d'intelligent à dire à propos des musiques.
On n'a rien à dire.
Quand on n'a rien à dire, de toute façon, c'est pas plus que ça.
Non, autrement dit, c'est ça. C'est pas le seul. C'est un peintre qui travaille à Montréal. C'est ce qu'on peut dire.
Ah, oui.
Donc, un art produit, c'est pas.
Mais c'est inévitable qu'il va y avoir certaines influences superficielles. Ça, c'est inévitable, finalement. La façon de suivre le lifestyle qu'il appelle de faire, là, ça, c'est inévitable aussi. L'art de Los Angeles, avec tous ses plastiques, ses bébelles, puis des affaires de même, à un moment donné, ça sort de Los Angeles plutôt que New York.
Mm-hmm.
Parce que le style de vie se prêtait à ces matériaux-là. Question de matériaux, puis de tous les décors de théâtre d'Hollywood, et tout ça, oui, ça influence. Okay? Je pense pas que ce qui a été fait par la suite avec les néons de Martial Reich, ces bonhommes-là, là-bas, ça soit aussi justifié. C'est justifié aussi facilement que ce qui s'est fait à
Los Angeles.
Tu comprends? C'est pas du tout de la même affaire, parce que ça fait partie d'une culture qui est là, puis ils ont pris des éléments qui étaient en entourent d'eux autres pour le faire. OK, correct. Comme à New York, une attitude agressive dans l'interview, dans certains des artistes new-yorkais, et là, qui reflète l'attitude de la ville elle-même. Okay? À Montréal, il y a une attitude bien bourgeoise, il y a bien des tableaux qui se reflètent à cause justement de la vie en bourgeoisie de Montréal. Comme la même chose est vraie de Québec aussi. La vie de Toronto, qui est extrêmement superficielle, comme vie, se reflète dans l'œuvre créée par les artistes torontois. Il y en a bien distingué les artistes torontois. C'est pas dit les artistes qui vivent à Toronto.
Eux veulent être volontairement torontois.
Les artistes torontois. C'est ça, tu seras toujours ça dans des peines de ce que j'appelle des catégories inférieures. C'est pas dans
les peines
de l'eau. Oui. Les pioïdes de l'eau. Mais c'est pas dans les peines d'une qualité finie.
Mais penses-tu qu'ici encore on a des conditions parce que. Si tu regardes les œuvres qui sortent, pour permettre un art, tu parlais tantôt de la notion du maître, de les œuvres hors temps, etc. Est-ce qu'on a encore les conditions pour produire les artistes?
Non. Non.
Pourquoi c'est fini?
OK. Là, on touche un autre problème. Tu vas sembler contradictoire à ce que j'ai dit tantôt, mais ça ne l'est pas. C'est qu'un artiste, pour vraiment s'assumer pleinement, il doit sentir qu'il fait partie d'une société en tant que tel. Okay. Il ne produit pas une œuvre officiellement pour la société. En tant qu'être humain, il faut qu'il s'assume quand même.
Il faut qu'il soit rattaché à quelque chose.
Ben, oui.
Bon.
Et si je fais un parallèle entre la société québécoise, la fin des années 50, début des années 60, et puis la société québécoise, la fin des années 70, 80, tu te rends rapidement compte que pourquoi il y a eu un essor aussi puissant que pas seulement de la peinture, mais des activités culturelles.
Pensez-vous
le cinéma, la musique, la littérature, le théâtre, l'avènement de la télévision qui était d'une qualité, probablement la meilleure qualité au monde. Ça faisait au Québec, ça ne faisait pas en Ontario, ça ne faisait pas aux États-Unis. Moi, je me rappelle justement, encore dimanche soir, on en parlait jamais, les téléthéâtres de l'époque, c'est la qualité de l'image, la qualité du théâtre, la qualité du théâtre, parce que maintenant, on dit pas dans la tête d'un faux roman policier, puis une fois passé ça, comme ça, quelque chose
d'un certain temps.
Tu regardes aussi la qualité de la programmation des affaires publiques, qu'il y avait dans les années 60. Tu regardes aussi, également, peut-être plus important, c'est que la société québécoise dans les années, fin des années 50 et 60, connaissait, nommait, avait identifié ses créateurs qui respectaient.
Mm-hmm.
Tandis que c'est plus le cas maintenant. Ça, pour moi, c'est très grave. Là, pour moi, c'est un signe de décadence. Extrêmement avancé. On ne s'attardera pas sur les causes de cette décadence-là, mais seulement sur ses effets.
Mm-hmm.
Parce que les causes, là, il y en a beaucoup. On les a toutes vues arriver un après l'autre. Je ne peux pas blâmer une chose en particulier plus qu'une autre, mais c'est une chose obtenue. La fin des années 50, 60, quand les médias d'information s'intéressent à la culture, ça devient des nouvelles. Les gens, quand ça devient des nouvelles, sont intéressés.
Mm-hmm.
Quand tu prends un médium d'information et puis que la culture est ramassée d'un petit coin tout seul, c'est plus des nouvelles. Ça, ça devient quelque chose de privilégié. Alors, à ce moment-là, ça n'a plus son importance dans la société. C'est drôle à dire, mais dans le fond, c'est plus simple que ça. Les choses les
plus importantes... Plus ça spécialise, plus ça décroche.
Plus t'as un décalage face à la société. Les moments les plus importants, c'est quand des programmes comme un programme qui s'appelait Aujourd'hui, avec une petite sœur comme de moi, passaient systématiquement à grandeur d'écoute, 7 heures de soir, passaient systématiquement des créateurs en interview. Continuellement. T'avais des peintres, quand c'était pas trois semaines, un mois après que l'exposition était finie.
C'était
fait avant pour que les gens aient le temps d'aller voir l'exposition. Bon. Un petit instant, c'est toujours un mois après. Comme s'ils annonçaient un opéra qui était un mois après qu'il était joué. C'est aussi stupide que ça. Ils ne font pas pour l'opéra, mais ça, ils le font pour les journaux. Puis quand il y avait, par exemple, des gens de l'extérieur, des créateurs qui venaient ici, ils passaient toujours là. Il y avait une série de programmes sur la culture. La culture dans le sens très large du mot, qui inclut science, qui inclut tout ça. Pour moi, la culture, c'est pas seulement la peinture,
les beaux-arts.
Les beaux-arts. C'est pas bien ça, la culture, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis, une société qui est en vie, c'est une société qui a autant de chercheurs et de créateurs. Je trouve que c'est une société qui est libérée avec les hommes d'affaires. C'est une société, mais pas. Mais à l'époque, la société québécoise avait identifié ces chercheurs, ces créateurs, ces gens-là, et qu'elle les considérait comme des éléments importants de cette société-là, dans l'évolution de la société. Tandis que maintenant, ça ne compte plus.
Mm-hmm.
On n'entend jamais parler. Si tu demandes, par exemple, au grand public de nommer un artiste peintre québécois, on a nommé Molinari parce que Molinari a fait des pieds et des mains de s'en aller partout et de gagner des concours de popularité, il fait ça de même, parce que c'est ce qui l'intéresse. Hein? Il joue le jeu des stars de cinéma, il fait ça de même. Ben non, bon, ils vont nommer des gars qui jouent le jeu de la publicité. Hein? Comme les gars comme Charlebois, il fait de même. Hein? Parce qu'il faut qu'ils vendent des listes, donc il faut qu'ils fassent des publicités de promotion. Et par contre, il leur demande de nommer un compositeur contemporain, québécois, ils vont nommer Don Pierre, ou bien ils vont nommer l'autre, des Gagnons, qui était fait de même. Même dans les gens les plus évolués, ça dit qu'il y a 20 ans, c'était Gilles Tremblay, c'était Garand, c'était Morel, c'était Maton, c'était Mercure, et puis c'était tous ces gars-là. Les gens étaient conscients. Puis pourtant, il y avait beaucoup moins d'activité qu'il y en a aujourd'hui. La société de musique contemporaine était beaucoup moins active à ce moment-là, il n'y a pas d'argent. Puis maintenant, c'est un concert régulier. Quand, par exemple, Berriot est venu à Montréal avec Cathy Berberian pour donner un concert, et c'était fin des années 60, il a quitté la télévision, des interviews, des sites et ça. L'an dernier, Stockhausen est venu à Montréal, il n'a pas eu un seul interview, même pas radio, rien. Il n'y avait rien, il n'y avait rien dans les journaux, rien. C'est là qu'on voit la différence.
Mm-hmm.
Elle est subtile, mais elle est très importante parce que c'est elle qui fait le lien. Quand il y a des nouvelles qui sont écrites dans un journal à propos d'un artiste, que, pas dans la section des beaux-arts, dans la section des nouvelles, qu'un artiste avait reçu un prix quelque part, cette affaire de même, tout le monde le disait. Tout le monde l'a vu.
Mm-hmm.
Mais ça, dans la section des beaux-arts, personne ne sait. Donc, personne ne te courait. Moi, je blâme. En premier, les réactions des journalistes de la presse parlée écrite, ils étaient responsables de ça, de ne pas avoir su. Il ne faut pas oublier non plus qu'à ce moment-là, les journalistes de la presse parlée écrite, se mettent avec les